Créodyssée, la créativité sous le microscope. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver à l'occasion de cette quatrième pastille de Créodyssée. Aujourd'hui, je ne parlerai pas d'une œuvre en particulier, je vous inviterai à une réflexion sur un aspect singulier de la créativité. Il sera question de surdité, de cécité et de corps mutilés. Et nous nous demanderons comment le handicap de certains artistes a une influence sur leur travail créatif. La création artistique est un processus évidemment cérébral, mais dans lequel le corps joue souvent un rôle majeur. Alors, que se passe-t-il lorsque celui-ci fait défaut? Nous verrons que dans bien des cas, non seulement la créativité reste intacte, mais étant contraints à des adaptations, les artistes porteurs d'un handicap parviennent à s'ouvrir de nouveaux champs d'exploration. Et dans des cas extrêmes, leur handicap va jusqu'à modeler complètement leur œuvre. Débutons notre exploration par un fameux guitariste. Django Reinhardt naît le 23 janvier 1910 en Belgique dans une famille Sinti, des descendants roms d'Europe de l'Ouest. Il apprend très tôt le violon, puis le banjo, à l'âge de 12 ans, un instrument pour lequel il voue une véritable passion. Très jeune, il se produit dans l'orchestre familial, dans divers endroits d'Europe, là où leur roulotte les conduit. Mais lorsqu'il a 18 ans, un drame survient. À la suite d'un incendie accidentel de sa roulotte, il est gravement blessé à la main gauche qui doit être amputée de l'annulaire et de l'auriculaire. Et à cause des séquelles musculaires, les médecins sont catégoriques, le jeune homme ne pourra plus jouer de banjo. Mais Django s'acharne et libère peu à peu sa main de la paralysie en s'efforçant de modifier son jeu. À cette période, il adopte la guitare car le banjo, trop bruyant, dérange le personnel hospitalier et les patients. Il passe alors sa convalescence à s'exercer sans relâche pour adapter sa façon de jouer à sa main estropiée, travail qui en fera un des plus grands virtuoses de l'instrument. La rapidité de ses traits est fascinante, surtout quand on sait qu'ils sont exécutés avec seulement deux doigts. Mais si le cas de Django Reinhardt est impressionnant du point de vue de l'interprétation, son handicap ne transparaît pas sur sa créativité elle-même. Il fait partie de ces nombreux artistes qui, grâce à un travail et une persévérance hors normes, et malgré les préjugés, sont parvenus à se hisser parmi l'élite. Dans ce même ordre d'idées, on peut citer par exemple Michel Petrucciani avec La maladie des os de verre, Tom Cruise ou Agatha Christie, deux dyslexiques célèbres, Stevie Wonder ou Ray Charles, tous deux aveugles. Et c'est exactement le même cas de figure avec un des plus brillants footballeurs, Lionel Messi, dont les médecins avaient annoncé qu'il ne pourrait jamais faire de sport. Dans le cas de Django Reinhardt, son handicap a donc moins d'influence sur sa créativité à proprement parler que sur son état d'esprit pendant sa période de formation et tout au long de sa carrière. En parlant de doigts coupés, arrêtons-nous maintenant sur un autre musicien, Tony Iommi, le guitariste du groupe de heavy metal Black Sabbath, car son cas est un peu différent. Au milieu des années 60, alors âgé de 17 ans, Tommy Iommi travaille comme ouvrier dans une usine de Birmingham. Un jour, une presse hydraulique lui sectionne deux extrémités de doigts. Dévasté, il songe à arrêter la musique jusqu'au jour où un ami lui parle justement de l'histoire de Django Reinhardt. Après plusieurs essais, il renonce à jouer avec deux doigts comme le musicien de jazz manouche, préférant placer au bout de ses moignons des prothèses qu'il confectionne lui-même à base de plastique sculpté et de morceaux de cuir. Même si ce dispositif lui permet de rejouer, cela reste très douloureux. Il équipe alors sa guitare de cordes plus souples et surtout, il désaccorde le mi grave, la plus grosse corde, en mi bémol, rendant la corde moins tendue pour que celle-ci offre moins de résistance. Grâce à ces adaptations, non seulement il peut rejouer comme avant, mais le son gras et lourd qui résulte de ces changements façonne singulièrement l'esthétique sonore du groupe. Par la suite, dans le monde du heavy metal, nombre de guitaristes adopteront ce genre de désaccordage de cordes afin d'obtenir ce son caractéristique, épais et profond, qui renforce le côté pesant et lugubre de leur musique. Nous avons donc là un premier exemple de handicap qui a eu une influence évidente en termes de créativité et d'esthétisme, car les adaptations qu'il a générées sont à l'origine de quelque chose d'innovant. Toujours dans le domaine musical, comment ne pas évoquer la surdité de Ludwig van Beethoven ? Le compositeur allemand commence à devenir sourd à l'âge de 26 ans et il le sera totalement les dernières années de sa vie, jusqu'à sa mort en 1827. Quand il prend conscience de l'irréversibilité du phénomène, il le cache et devient dépressif. Il s'isole de plus en plus, ce qui lui donne une réputation de misanthrope. Il sombre également dans l'alcool et se laisse envahir par des idées suicidaires, allant même jusqu'à écrire des lettres d'adieu qu'il n'enverra jamais. Quand il parvient à faire le deuil de sa carrière d'interprète, il se consacre pleinement à celle de compositeur. On peut évoquer la profondeur de sa musique car empreinte d'une grande intériorité, mais ce constat reste très subjectif et certainement orienté par notre connaissance a priori de son infirmité. Cela dit, on peut donner quelques exemples objectifs intéressants. Il lui est arrivé de composer des œuvres particulièrement difficiles à interpréter car, incapable d'entendre réellement ce qu'il imaginait, il retranscrivait à l'écrit la musique qu'il percevait dans sa tête sans se poser pleinement la question de sa jouabilité. C'est le cas de la Hammerklavier, une pièce pour piano écrite en 1817 et à propos de laquelle il confiera à son éditeur « Voilà une sonate qui donnera de la besogne au pianiste lorsqu'on la jouera dans 50 ans ». Cette œuvre de 45 minutes comprend 4 mouvements d'une exceptionnelle complexité et qui, selon l'avis de beaucoup, nécessiterait plus d'une vie de travail pour parvenir à la maîtriser. Mais au sujet de Beethoven, il y a un éclairage plus troublant. L'évolution de sa surdité a été progressive et hétérogène sur l'ensemble du spectre des fréquences. Ayant perdu les aigus avant les graves, l'écriture de sa musique s'en est ressentie. Une équipe de chercheurs a analysé 16 quatuors à cordes dont l'écriture s'étale sur plus de 25 ans et ils ont pu identifier plusieurs périodes distinctes qui correspondent à différents stades de l'évolution de sa maladie et de la façon dont Beethoven s'est adapté. Tout d'abord, les quatuors dits précoces entre 1798 et 1800, c'est-à-dire le tout début de sa gêne auditive. Une deuxième période qui s'étale jusqu'en 1806, une troisième jusque vers 1811, et enfin, les quatuors dits tardifs, composés entre 1824 et 1826, une époque à laquelle sa surdité est totale. Les chercheurs ont étudié la répartition des sons en fonction de leur hauteur, et ils ont noté qu'entre le début de sa carrière et la fin de la troisième période, la proportion des notes aiguës, mesurée par rapport à une note de référence arbitraire, chutait de 8% à moins de 2%. Beethoven perdait ses fréquences aiguës plus que les graves. Il les utilisait donc de moins en moins, privilégiant les fréquences plus basses qu'il percevait davantage. Mais le plus surprenant, c'est qu'en devenant totalement sourd, cette proportion a remonté dans les dernières œuvres. Car n'entendant plus rien, il était alors libre d'imaginer ce qu'il voulait. Il pouvait à nouveau tout utiliser, toutes les fréquences dont il disposait de façon homogène. Cet éclairage original montre à quel point le handicap du compositeur a sculpté son art en profondeur et peut-être à son insu. Si la surdité est une calamité pour les musiciens, les troubles visuels le sont tout autant pour les peintres. Claude Monet, le célèbre peintre impressionniste français de la fin du 19e siècle et du début du 20e, a souffert de la cataracte à partir de 1908. Son cristallin s'opacifiant, il se met à voir flou et perd progressivement la perception de certaines couleurs, notamment les bleus. À partir de cette époque, on distingue clairement une accentuation des jaunes et des rouges, couleurs qu'il reçoit artificiellement en surabondance. L'exemple le plus frappant est sans doute l'évolution du fameux pont japonais qu'il peint à de multiples reprises. Je vous encourage à le constater par vous-même. d'aspect naturel et équilibré en 1900, on frise l'abstraction dans la version de 1922 tellement sa vision est altérée, tant du point de vue de la précision que de la répartition des couleurs perçues. En 1923, après avoir longtemps hésité, Monet consent à se faire opérer. On lui retire totalement le cristallin, ce qui a notamment pour conséquence de lui ôter le jaune. Sa rééducation jusqu'en 1925 fait qu'il ne peint presque pas à cette époque. Sa vision des couleurs est à nouveau très altérée, au point que, quand il se remet au travail, il est contraint de disposer les couleurs dans un ordre très précis sur sa palette et de forcer les contrastes. La promesse faite à Clémenceau de livrer sa célèbre série des Nymphéas avant 1924, délai qu'il ne pourra tenir, l'incite à peindre dans un état de vision particulièrement détérioré. Subissant les conséquences de ses yeux meurtris, sa peinture évolue vers une disparition progressive des formes et une répartition inédite des couleurs. Mais loin d'aboutir à une œuvre mutilée, ses tableaux ouvriront un champ d'exploration majeur pour certains peintres en quête d'abstraction, faisant ainsi le pont entre l'impressionnisme et la peinture abstraite. Il serait peut-être abusif d'affirmer que la maladie de Monet est à l'origine de la peinture abstraite. Cela dit, il est évident que ses conséquences ont inspiré nombre de jeunes créateurs. Je terminerai par un des exemples les plus frappants, si ce n'est le plus extrême, celui de Frida Kahlo. Frida Kahlo est une peintre mexicaine du début du XXe siècle. Elle contracte la poliomyélite à l'âge de 6 ans et en garde une jambe atrophiée, ce qui lui vaut nombre de moqueries de la part des autres enfants. Excellente élève, soutenue par ses parents, elle se destine à des études de médecine. Mais à 18 ans, victime d'un grave accident de bus, une barre métallique lui transperce l'abdomen et la cavité pelvienne. On dénombre pas moins de 11 fractures, notamment au bassin, et sa colonne vertébrale est brisée en 3 endroits. Son corps n'est qu'un amas de meurtrissures, et elle emportera de graves séquelles physiques et morales toute sa vie, luttant en permanence contre la douleur. C'est à l'hôpital, pendant sa convalescence, qu'elle commence à peindre. Sa mère lui fait confectionner un chevalet spécial, ainsi qu'un miroir au-dessus du lit, ce qui lui permet de produire ses premiers autoportraits, un genre qu'elle affectionne particulièrement, puisqu'ils représenteront plus du tiers de son œuvre. À ses débuts, elle déclare « Je ne suis pas morte, et j'ai une raison de vivre. Cette raison, c'est la peinture. » Tout au long de sa carrière, non seulement Frida Kahlo est influencée par ses multiples handicaps qui façonnent son art, mais elle les met véritablement en scène dans des toiles souvent violentes, parfois glauques, voire insoutenables, et dont l'ensemble pourrait constituer une forme d'autobiographie. Et comme nous allons le voir, cela ne concerne pas seulement son corps. Voici quelques exemples éclairants. Je vous invite vivement à vous emparer de votre moteur de recherche préféré pour admirer les œuvres que je m'apprête à citer. La souffrance corporelle de Frida Kahlo apparaît sans détour dans des œuvres telles que Pitayas ou Nature morte, de façon évocative, par l'agencement des fruits et la façon de les montrer en coupe. On la voit de manière plus directe dans La colonne brisée, Sans espoir ou Le petit cerf. Ici, les meurtrissures de son corps sont exposées à nu jusqu'à le montrer de l'intérieur, les organes internes étalés, le tout dans des compositions souvent violentes et crues. Frida Kahlo se marie avec le peintre Diego Rivera en 1929. Son désir d'enfant est mis à mal à cause de multiples fausses couches qu'elle évoque ensuite dans des toiles comme Frida et la fausse couche, un titre sans ambiguïté, ou bien L'hôpital Henry Ford, dont la représentation de son utérus, d'un fœtus et d'elle-même baignant dans une mare de sang est particulièrement insoutenable. Quand elle comprend qu'elle n'aura jamais d'enfant, elle l'évoque dans la toile Moi et ma poupée en 1937, dans laquelle elle se met en scène, assise sur un lit, à côté d'une poupée ayant les traits d'un enfant mort. Lorsque l'on connaît l'origine de ce tableau, il en ressort un malaise certain. Au-delà du corps, Frida Kahlo souffre de sa relation tumultueuse et toxique avec son mari. Là encore, elle se sert de l'emprise morale qu'il a sur elle pour créer des œuvres telles que Autoportrait aux cheveux coupés ou Autoportrait avec collier. Leur divorce est pour elle une nouvelle épreuve psychologique qu'elle évoque dans Les deux Frida en 1939. Dans ce double autoportrait, elle étale sans ambiguïté le mal qui la mine et la trahison qu'elle ressent. Rappelons que Diego Rivera a entretenu une relation avec la propre sœur de Frida. J'évoquerai un dernier élément qui n'est pas un handicap à proprement parler, mais une lutte violente qu'elle a dû livrer pendant toute sa carrière, à savoir son combat féministe dans une société hyper machiste. En tant que femme artiste dans le Mexique du début du XXe siècle, Frida Kahlo a subi quantité d'attaques, d'autant que son mari Diego Rivera était lui-même un peintre reconnu. Regardez quelques petites piqûres peintes en 1935 ou bien Deux nus dans la forêt en 1938, deux toiles qui expriment la violence permanente ressentie dans un climat fortement misogyne. Sur ce thème, elle ne met pas en scène son propre handicap, mais celui de la société dans lequel elle vit. Encore une fois, je vous encourage à admirer son travail, le regarder sous cet angle, celui d'une femme qui, avec talent et intelligence, a su créer une œuvre majeure et vive, à partir des mots qui l'ont fait souffrir toute sa vie. Il y aurait tant à dire sur le sujet, mais je vais m'arrêter ici. Il est fascinant de voir comment certains artistes parviennent à s'emparer de leur handicap et d'en faire une force ou un nouveau champ d'exploration, consciemment ou non. On l'a souvent répété dans Créer Odyssée, la création naît de la contrainte. L'assimilation d'un handicap en est un parfait exemple. J'espère que ce modeste éclairage vous a plu et donné envie de découvrir ces artistes et leurs œuvres. Nous serions heureux d'échanger avec vous par mail à l'adresse creodyssee@gmail.com ou via notre page Facebook. Merci de soutenir Créer Odyssée en partageant nos épisodes et en parlant autour de vous. À très bientôt pour un prochain épisode.